Est-ce que vous connaissez les évangiles synoptiques? Qu'est-ce que ça veut dire, les évangiles synoptiques? Vous savez? C'est un terme un petit peu particulier. Ça veut dire quoi, synoptique? Il y a des évangiles qui sont synoptiques, d'autres qui ne le sont pas, ou un autre qui ne l'est pas. Ça veut dire quoi, évangile synoptique? Un certain terme un petit peu de pasteur, c'est quoi? Mais c'est des évangiles qui relatent un petit peu la même chose. C'est-à-dire qui relatent un petit peu globalement les mêmes événements avec les mêmes termes, puis avec les mêmes versets, les mêmes pensées. Alors, c'est lesquels? Ben, c'est Matthieu. Comment? C'est quoi?
Matthieu, Marc et
Luc. Tout à fait. Donc, c'est les trois. Donc, il y en a un qui n'est pas synoptique.
C'est celui de Jean.
Bravo. Tout à fait celui-là. Mais quand même, il y a quand même des fêtes qui sont communs aux quatre. Ils ne sont pas nombreux du tout. Pas nombreux. Quelques-uns qui sont en dehors de la passion, bien entendu, qui est une relation qui est commune, avec des variantes, mais qui est commune. Mais en termes ponctuels, précis, en fait, ou en parabole, qu'est-ce que vous connaissez qui soit quand même commun dans les quatre? Il y en a un qui peut avoir un rapport avec ce qu'on voit aujourd'hui, là. Comment?
Le pain.
Oui, la multiplication des pains. Très, très bien. Ça, c'est là, c'était le plus important. Donc, ça montre à quel point ils sont communs aux quatre évangiles, parce que c'est important. Donc, c'est une multiplication qui est dans les quatre évangiles, est capitale. Hein. Dans son sens, et dans son sens symbolique aussi. Il y en a encore deux, il n'y en a pas beaucoup d'autres, il y en a encore deux ou trois autres. Ils sont peut-être moins connus, mais qui ont une importance certainement primordiale, puisque c'est rapporté dans les quatre. Quel est le deuxième? Non. Eh bien, le deuxième, c'est l'annonce du reniement de Pierre, qui est dans les quatre évangiles. Le troisième, qui est un épisode connu, mais enfin, on ne sait pas pourquoi, s'ils sont comme ça, c'est que c'est essentiel. Le troisième, c'est l'arrestation du Seigneur Jésus. Ce n'est même pas Gethsémané, hein, Gethsémané est relaté dans les trois évangiles synoptiques, mais très peu évoqué dans l'évangile de Jean. Par contre, l'arrestation du Seigneur Jésus est dans les trois. Et le quatrième. Alors, ce quatrième, il nous concerne tous, parce que vous savez, on parle surtout dans les évangiles des grands apôtres, hein, qui ont laissé un nom, qui n'est pas oublié. Pierre, Jean, les autres disciples, Matthieu, ils ont laissé un nom qui est... Mais ce quatrième épisode est relaté dans les quatre évangiles et concerne finalement, ce qui est bien, des personnes comme nous. Donc ce qui montre qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui ne sont pas des moteurs ou qui ne sont pas des vedettes. Alors c'est quoi cet épisode? Il se passe au moment de la passion du Seigneur Jésus. C'est quoi cet épisode? Il est dans les quatre. Hein.
C'est Jean de Sirène quand il porte la croix.
Hein. Oui, non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Bon, on va le voir ensemble. Hein. Dans Jean 19, on le voit, parce qu'il concerne vraiment des personnes. C'est encourageant pour nous, parce qu'il reste de l'espoir pour nous. Même si on n'est pas connu, même si nos noms ne sont pas dans les évangiles, ne sont pas écrits, du moins nos prénoms. Ah, on va le voir. C'est dans Jean 19. C'est l'ensevelissement du Seigneur Jésus. Dans Jean 19, à partir du verset 38, « Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes, avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait dans un jardin, dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. » C'est un bel épisode, hein? Le Seigneur Jésus est mort. Et il y a deux personnages là qui ont un point commun. Joseph d'Arimathée puis Nicodème. Quel est leur point commun? On peut en dire un peu, il y en a deux. D'une part, c'est quand même ils sont instruits. Hein, tous les deux, c'est des docteurs de la loi, si on peut dire. Hein, ils ont fait des études, ils ont été à l'université, ils ont passé des masters. Hein. Mais là, c'est leur premier point commun, mais le deuxième qui est un point commun, alors là, qui peut aussi nous concerner, moi je me reconnais souvent dedans. C'est quoi ce point commun? Il est marqué dedans. Du moins pour le premier, mais ils ont un point commun qui nous concerne aujourd'hui, puis qui nous encourage. C'est quoi ce point commun? On ne sait pas, c'est pas l'âge, on n'en sait rien. Hein. Bon, on ne sait pas comment ils étaient habillés non plus. Ben, un point commun, c'est qu'ils n'étaient pas très courageux. Eh oui, c'est marqué là. Hein. Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs. Parce que Joseph, il faisait partie de quoi? Du Sanhédrin. Il faisait partie, Joseph d'Arimathée, du Sanhédrin. Demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Il est même marqué dans l'évangile de Jean qu'il osa aller vers Pilate. Donc s'il osa, c'est qu'avant, il n'avait pas osé se montrer. Et Pilate lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. On voit maintenant un deuxième homme courageux. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi. Pourquoi il avait été de nuit voir le Seigneur Jésus? Pourquoi?
Pour passer une appétence.
Comment?
Pour qu'on ne le remarque pas.
Mais bien sûr, parce qu'il avait peur. Parce qu'il ne voulait pas être mal jugé par les... Nicodème, il faisait partie aussi des docteurs, il était un homme instruit, donc il faisait partie des dirigeants. Il s'était dit, si je le dis, après, ben, je vais me faire exclure. Mais il y a quand même été de nuit. Et le Seigneur Jésus lui a parlé, on le verra tout à l'heure. Hein. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Alors 100 livres, en traduction de termes de poids actuels, ça fait à peu près 30 kilos. Ils ont apporté tous les deux 30 kilos d'aromates. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Imaginez cette descente de la croix. Ils l'ont porté contre leur cœur, contre eux. Ils l'ont descendu, les deux, ils l'ont porté contre eux. C'est une image merveilleuse d'amour pour lui. Et puis ils l'ont fait en sachant qu'il était mort et sans avoir encore compris qu'il devait ressusciter. Parce qu'il ne l'avait pas cru. Hein. Les disciples n'avaient pas cru à la résurrection. Pas du tout. Ils étaient désolés, mais l'amour qu'ils avaient pour lui était plus fort. Et c'est ça le secret de Nicodème et le secret de Joseph. C'est que malgré leurs craintes, leurs peurs, ils avaient pour lui un véritable attachement. Qui fait que dans les ténèbres, dans le secret, dans la nuit, ils continuaient quand même à espérer en lui. Et puis à s'attendre à lui. Et un jour vient où ils se mettent en pleine lumière. Ils sont à la lumière. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose pour nous? Il y a un jour où, quand même, il faut parler de notre foi. Vous savez qu'il y a deux manières de parler de sa foi. C'est quoi ces deux manières? Il y en a deux.
Être.
Être, c'est la première, c'est la plus belle. Hein. Être et dire. Et dire. Il y en a qui disent puis qui ne sont pas. Hein. Ça arrive. Ça arrive. Il y en a qui sont puis qui n'osent pas encore dire. C'est la meilleure voie. Joseph et puis Nicodème étaient de ceux qui étaient. Ils ont témoigné par leur vie, par leur attachement, parce que quand on aime quelqu'un, on en donne des preuves, non? Eh bien, ils ont choisi de s'attacher à lui. Et c'est ça, dans cette manière de témoigner. Et pour nous, c'est la même chose. C'est ces deux manières de témoigner qui sont. Et puis un jour ou l'autre, elles viennent à la lumière. Ce qu'on est, vous savez, comme on le dit, parle plus que ce qu'on dit. Heureusement d'ailleurs, hein, et c'est bien. Est-ce qu'on est notre comportement, notre changement de comportement aussi parle aux autres? Et c'est ça qui montre que cette vie nouvelle est en nous, on le reverra encore tout à l'heure. C'est bien, c'est le premier témoignage. Celui-là, il est irremplaçable, c'est le vrai. Et le deuxième, il faut souvent un petit peu de courage, hein, souvent. Vous savez, on voit souvent des chrétiens qui témoignent un petit peu facilement, un peu même, un petit peu trop légèrement. Mais je crois que quand on le fait, c'est qu'on n'a pas vraiment expérimenté quelque chose du contact avec Dieu. Quand on a réellement expérimenté, bien, ça a plus de prix. Donc, on a un, ça nous travaille, on a un petit peu peur de perdre la face, d'être jugé. Mais c'est pourquoi? C'est parce que pour nous, ça a la valeur. Et c'est là que le Seigneur nous attend. Il dit, écoute, vas-y, dis-le. Dis-le. Tu vas peut-être perdre ta vie. On va peut-être se moquer de toi. On va peut-être regarder de haut. Moi, j'ai souvent, puisque je suis médecin, j'ai souvent dans le regard de mes patients, quand je témoignais, ils n'osaient rien dire, bien entendu. Mais je voyais dans leur regard qu'ils disaient, docteur, vous croyez encore à ces choses-là? Vous croyez encore à ces sornettes? C'est dur, hein? C'est dur, mais il faut avoir le faire au bon moment. Mais le dire quand même. Et puis, il y a aussi une deuxième chose, c'est qu'il n'y a rien finalement qui encourage plus la foi que la partager. Quand on a eu ce courage de le dire, pas encore une fois, il ne faut pas le faire à la force du poignet comme une obligation, mais le faire comme on sait qu'il faut le faire. Souvent, c'est difficile avec nos familles, avec nos proches, hein, qui nous connaissent, de dire en public, mais le dire quand même, discrètement. Il ne faut pas en faire un étendard, mais un témoignage. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et là, eh bien, on est fortifié. Quand on l'a fait, eh bien, ce témoignage, ce partage qu'on a fait, nous fortifie dans notre foi. Et nous affermit encore. Seigneur, toi, ben, je l'ai dit. C'est bien. On est heureux de l'avoir fait. Eh bien, Nicodème et puis Joseph l'ont fait. Ils ont porté contre eux. Joseph a eu le courage d'aller voir Pilate. Nicodème l'a accompagné. Ils ont porté le Seigneur Jésus contre eux, avant même de savoir qu'il allait ressusciter et avant même de l'avoir cru. Mais leur attachement, leur amour pour lui était sincère puisqu'ils l'ont montré. Alors, dans nos vies, c'est ça, c'est ce témoignage à donner, mais comment finalement nous comporter quand on le donne? Vous savez qu'il est écrit, on va le voir, dans Jean 13, et c'est l'expérience, le témoignage de Nicodème, hein. Jean 13. Quand le Seigneur lave les pieds, à quoi dit-il que le monde reconnaîtra que vous êtes ses disciples? À quoi? À une seule chose. À quoi? Il aurait pu faire une énumération de plusieurs choses. Hein. Vous avez la foi, vous avez le courage, vous avez la persévérance. Vous avez à une seule chose, le Seigneur dit, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples, à quoi? À quoi? À l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est ce qui est marqué. Hein. Regardez. Il faut que je le retrouve. Hein. Dans Jean 13. Voilà. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Verset 35, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà, tous connaîtront. C'est pourquoi, à votre avis, le Seigneur dit ça à Pierre. Il aurait pu dire, vous allez recevoir mon enseignement, vous pourrez être des disciples, être des témoins, pour apporter tout un tas d'explications aux autres, pour leur montrer pourquoi ils ont intérêt à croire en moi. Il dit, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pourquoi il leur dit ça? Il y a une raison précise. Bien sûr que cet amour rend témoignage de l'amour de Dieu pour nous, ça c'est sûr. Mais pourquoi il demande cette qualité-là précisément, puis pas une autre? Il ne dit pas ce sera à votre persévérance, à votre dévouement, à vos œuvres. Il dit c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Pourquoi il leur dit ça? Il y a une raison. Et on peut déjà dire que parce que c'est une chose essentielle, c'est sûr. Et pourquoi celle-là, et puis finalement aucune autre? Mais déjà parce que celle-là découle toutes les autres. Vous êtes d'accord? Si on a de l'amour pour les autres, on est prêt à tout faire. Hein? Et puis, ce qui est formidable, c'est que Pierre a tout compris. Il est écouté, et puis il va mettre en application tout de suite ce que le Seigneur lui dit. Hein, c'est le verset qui suit. Mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et Pierre répond. Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. Ah, voilà encore un point commun entre Jean et les trois autres évangiles. On a vu Joseph d'Arimathée, Nicodème, et voilà ce point commun. L'annonce du reniement, même pas le reniement lui-même, hein, mais l'annonce du reniement, il est dans les quatre évangiles. C'est embêtant quand même. Hein. Alors là, écoutez, vraiment, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Le Seigneur lui dit que c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde reconnaîtra. Vous êtes mes disciples. Simon Pierre embraye tout de suite, il est d'accord à 100%, au minimum. Il est d'accord. Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. Est-ce qu'il était sincère à votre avis? Ou pas?
Oui.
Bien sûr. À sa place, vous auriez fait la même chose? J'hésite, hein. On est entre nous, je peux vous le dire. Mais j'hésite quand même, j'aurais hésité avant de répondre. Enfin, avant de répondre, puisque le Seigneur Jésus leur a demandé, hein. C'est lui qui s'est proposé. Hein? Il traîne un petit peu. On peut dire que Pierre applique la parole, mais alors immédiatement, c'est formidable ce qu'il fait, non? Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. Hein, donner sa vie, c'est même une preuve d'amour, non? Il montre qu'il a de l'amour pour le Seigneur Jésus. Et puis, comme vous dites, il est parfaitement sincère. Parfaitement. Alors, où est le problème? Il y a quand même un problème. Il faut qu'on puisse le résoudre ce matin avant qu'on puisse se quitter. Hein? Quel est le problème? Où est-ce qu'il est? Il n'y en a pas?
Si. Entre la parole et les actes, il y a.
Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est déjà c'est, tout à fait, c'est ça. Et pourtant, Pierre était sincère. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur lui dit, avant que le coq soit entré, tu me renieras trois fois. Et dans un autre évangile, Pierre insiste et lui dit, quand tous te renieraient, moi je ne te renierai pas. Oh, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ah, il le dit, hein. Quand tous te renieraient, moi je ne te renierai pas. Et quel est le seul qui a renié le Seigneur Jésus? Quel est le seul? C'est celui qui dit qui est. Mais c'est lui qui l'a renié. Les autres ne l'ont pas renié. Hein. Ils sont enfuis, c'est d'accord. Bah, c'est un peu la même chose. Mais bon, bah, lui, il a fait les deux. Hein. Il s'est enfui, puis il a renié. Il a fait la... Donc il avait 100% raison. Hein, donc. Quand tous te renieraient, moi je ne te renierai pas. Ça, c'est un témoignage. Chapeau, hein. C'est pas comme Joseph et puis Nicodème qui se cachent dans les souterrains. Pierre, il est vraiment, on trouve ça, il est formidable. C'est le Seigneur Jésus qui est un peu cruel, non? Vous ne croyez pas? Il lui dit ça alors que l'autre, il a dû lui faire de la peine à Pierre, non? Tu me renieras trois fois. Bon, je pense que Pierre n'a rien dit, mais il dit, je vais lui prouver le contraire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi le Seigneur, il dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, donc pour moi aussi, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Et puis, il dit à Pierre qu'il va le renier. Ça ne va pas ensemble, si? Il n'y a pas un problème, là? Il demande une chose, et puis, il dit qu'on fera le contraire. Il dit qu'on fera le contraire. Alors, quelle est l'explication? Il y a une explication. Ben oui, forcément. C'est pas la peur, hein?
Non,
non, non. Non. C'est pas la peur. Quelle est l'explication? Alors, c'est l'explication qui change toute une vie. Toute une vie.
La confiance.
Qui change toute une vie. Pierre, il avait des illusions sur son engagement, non? Il était sincère. Est-ce qu'il a accompli ce qu'il voulait faire? Ben non. Pourtant, il était sincère. Alors, quelle est l'explication qui, encore une fois, pour nous, change toute notre vie, hein, toute notre vie.
C'est la confiance de notre humanité.
Oui. Qui est bonne ou mauvaise?
Elle est bonne.
Ah, ben c'est la confiance. Ben, Pierre avait confiance dans son humanité.
La conscience.
Ah oui, conscience. Ah là, vous avez pris la confiance.
La conscience.
Mais il n'avait pas la conscience dans son humanité, tout à fait,
oui.
D'accord.
Hein. Oui, mais la différence.
Hein, il n'avait pas, hein, s'il l'avait eu, il n'aurait rien dit. Alors, quelle est l'explication pour ça? Donc, bah, pour vous aider, est-ce que le Seigneur Jésus, il est plein d'amour? Est-ce qu'il demande une chose possible ou impossible dans son amour, à votre avis? Est-ce qu'il demande une chose possible? On peut voter, là, c'est pas des municipales, mais on peut même voter peut-être, non? Alors, est-ce qu'il demande une chose possible, le Seigneur Jésus, s'il nous la demande? Est-ce qu'il demande une chose possible ou il demande une chose impossible?
C'est
comment?
Mais bon.
Hein? Eh bien, il demande une chose impossible. Parce que s'il était possible, il ne la demanderait pas. Oh.
rien d'extraordinaire.
C'était possible, il ne la demanderait pas. Pourquoi il ne la demanderait pas? Pourquoi? Si c'était possible, il ne la demanderait pas à Pierre. Pourquoi? Pourquoi il ne la demanderait pas à Pierre? C'est étonnant tout ce qu'on dit là, non? Pourquoi il ne lui demanderait pas? Eh bien parce qu'il la ferait sans lui. C'est ça. C'est ça la vie nouvelle en Christ. Parce qu'il la ferait sans lui. Vous savez, tout ce qu'on peut faire sans lui, on le fera. Surtout, surtout les choses pour lui. Hein? Tout ce qu'on peut faire sans lui, on le fera. Il le sait bien. C'est pour ça que ce qui change toute notre vie, c'est ce qu'il a annoncé à qui? À Nicodème. C'est pour ça qu'il dit au Seigneur, vous êtes mes disciples, vous avez l'amour les uns pour les autres. Parce que c'est une chose impossible. Tant qu'on croit que c'est possible, le Seigneur ne nous a pas encore vraiment touchés. Il a touché Pierre à l'endroit où il fallait. À l'endroit où il fallait. Quand tous te renieraient, je ne te renierai pas. Eh ben, on va voir. On va vous rendre compte après à quel point Pierre a dû accepter le pardon du Seigneur. Vous savez, il faut beaucoup d'humilité pour accepter le pardon. Et repartir quand même. Et il est reparti. Pourquoi? Parce qu'il a accepté d'être cet homme-là. Il n'a pas renié, je suis cet homme-là. Il est parti avec après une autre force. Voilà le secret. Dieu demande des choses impossibles. Impossibles. Autrement, on les ferait sans lui. Autrement, il ne serait pas venu sur cette terre. Il y a un Ancien et un Nouveau Testament. Si les choses étaient possibles sans lui, le Seigneur Jésus ne serait pas venu sacrifier sa vie. Notre Père Céleste n'aurait pas envoyé son Fils. Il aurait dit « Appliquez les 10 commandements, ils sont parfaits ». Le Seigneur Jésus dit lui-même qu'il ne va rien disparaître de cette loi. Elle est parfaite. Les 10 commandements sont parfaits. Ils ont deux caractéristiques, ces 10 commandements. Lesquels? Ils sont parfaits. Et la deuxième caractéristique? Ils sont inapplicables. Inapplicables. Tout à fait, c'est ça. Inapplicables. Parce que s'ils étaient applicables, on les aurait appliqués. Dieu est logique, vous savez, avec lui-même, avec nous. Mais c'est nous qui ne croyons pas. On croit qu'on peut quand même, à la force du poignet, lui apporter ce qu'il souhaite. Et tant qu'on a cette illusion, on n'est pas encore dans la vie commune. Donc on n'a pas encore choisi ce que Dieu voulait pour nous. Qu'est-ce qu'il voulait? Là, on peut revenir à Nicodème. Qu'est-ce qu'il a fait avec Nicodème? Dans Jean 4. Il l'a expliqué à lui. Qu'est-ce qu'il a expliqué? Le secret de la vie chrétienne. Jean 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Nicodème n'a rien compris. Quand peut-il, un homme peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Jésus dit, si tu ne nais de nouveau, ça voulait dire quoi? Eh bien, si moi je ne viens pas vivre en toi, c'est ça. Si moi je ne viens pas, tu ne pourras pas accomplir mes choses. Il a dit à Nicodème, hein? Et Nicodème ne s'est pas enfui. Il n'est pas parti. Vous savez, il y a d'autres juifs, il est noté dans l'évangile de Jean, qui ayant entendu sa parole, dans Jean 6, il dit, mais il a perdu la raison, et plusieurs l'abandonnèrent. Quand il leur a dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui me mange vivra par moi. » Bien sûr, il a perdu la raison. Il veut nous faire manger sa chair. On n'est quand même pas des cannibales, surtout les juifs. Il s'est parti. Nicodème n'est pas parti. Pourquoi il n'est pas parti? Il l'a dit lui-même. Pourquoi il n'est pas parti, Nicodème? Parce que son cœur n'était pas le même que celui des autres. Mais il le dit. Il dit pourquoi il n'est pas parti, là. Écoutez, regardez bien. Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un homme, un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Il avait un cœur honnête et droit. Il n'avait rien compris à ce que le Seigneur Jésus voulait lui expliquer, mais ce n'était pas grave. Il comprendrait en son temps. Mais il lui a dit, « Personne, Dieu est avec toi. Personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est pas avec toi. Donc tu as donc toi venu de Dieu. » Il avait reconnu. Les autres ont parlé. Ils voulaient un Messie sur leur pensée, qui les délivre des Romains. Mais les miracles qu'ils faisaient ne les convainquaient pas. Comme quoi, si vous voulez, on n'est pas perdant. Ce n'est pas les miracles qui amènent une conversion. Donc même si nous en voyons peu, on n'est pas ni perdant ni frustré. Les miracles n'amènent pas. C'est la position du cœur. Ces Juifs ont vu des miracles par dizaines. Ils n'ont pas changé de position parce que leur cœur n'était pas honnête ni droit. Nicodème a peut-être vu beaucoup moins que beaucoup, un ou deux, ça lui a suffi. Tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est pas avec lui. Et ça suffisait. Vous voyez, c'est la position du cœur. Et Nicodème, après, a compris, après la résurrection, que le seul moyen de manifester la vie de Dieu, c'était de la recevoir. Et de choisir cette autre position que le Seigneur donne quand il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Il est écrit dans Colossiens, Colossiens 3, vous lirez, « Vous êtes mort et votre vie, et Christ votre vie. » Vous êtes mort. Que je dis ça, j'ai mis des années à comprendre ce verset. D'abord, Dieu ne nous demande pas d'expliquer, il nous demande de comprendre. La foi, c'est de prendre à la lettre ce que Dieu dit. À la lettre. Si Dieu dit, vous êtes mort, vous qui avez cru, vous êtes mort. Alors, nous, on pense souvent que la mort à soi-même, hein, qui est souvent évoquée dans les témoignages ou dans les prédications, c'est une arrivée après toute une vie de souffrance, d'abandon, de décrépitude. On arrive enfin après à la mort de nous-mêmes, en étant complètement épuisé et essoufflé. Hein? C'est un peu comme ça, non? Il faut en baver quand même, hein, pour arriver à cette perfection. On a cette pensée en nous. Il faut en baver. Si on n'en bave pas, ça ne va pas. Eh bien non, mais ça veut dire que vous êtes mort. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de vous servir. Si vous m'avez reçu dans vos cœurs, vous n'êtes pas obligé de vous servir de votre ancienne nature. L'ancien Philippe, l'ancienne Edith ou Françoise, on n'est pas obligé. On peut, mais on n'est pas obligé parce qu'on a reçu cette nouvelle qui, elle, va nous permettre d'aimer les autres, de les aimer réellement. Et c'est le test, vous savez, pour aimer quelqu'un qui ne vous aime pas, il faut vraiment la vie de Dieu. Hein. Si elle n'est pas là, vous ne pouvez pas. Aimer ceux qui nous aiment, moi, j'y arrive sans problème. Mais aimer quelqu'un qui, au bout de 10 minutes, me fait une entorse, j'ai beaucoup de mal. Hein. Et heureusement, parce que si vous pouvez faire les choses sans Dieu, comme on le disait, on le ferait. Mais non, on ne peut pas. Donc il faut qu'il vienne, vous êtes mort. Et utilisez celui que vous avez reçu. Vous savez que l'Esprit du Seigneur Jésus, il est dans vos cœurs si vous l'avez reçu. Vous avez ce témoignage en vous. Il y a des choses que vous ne pouvez plus faire, des lectures que vous ne pouvez plus garder, peut-être des films que vous ne pouvez plus voir, des paroles que vous ne pouvez plus prononcer, des discussions dans lesquelles vous êtes obligé de vous écarter parce que vous avez un malaise. Parce que cette vie, elle est en vous. Et pourquoi on ne la connaît pas mieux? Pourquoi je ne la connais pas mieux? Parce que je ne la laisse pas se développer comme elle voudrait. Il nous dit que vous appartenez à Christ, celui qui appartient à Christ. Eh bien, il peut dépendre uniquement de cette vie nouvelle pour toute chose. Pour toute chose. C'est toujours un choix du cœur de le laisser. Et après, de laisser accomplir le but qu'il a pour nous dans notre vie. Il avait un but pour Nicodème, il avait un but pour Joseph, ils l'ont accompli là. Ils sont sortis en fin de l'ombre au moment de Dieu. Pierre était sorti de l'ombre bien avant, il fallait nous qu'il y reste. Les autres aussi, mais il a un itinéraire pour chacun de vous, pour l'utilité commune. Il veut simplement que vous marchiez dans ce que lui a choisi pour vous. Donc, acceptez de perdre le contrôle de cette vie. Même pour les choses les meilleures qu'on voudrait faire pour le Seigneur. Les meilleures. Il dit non, maintenant, laisse-moi, moi, prendre la suite. Comme il a dit à Pierre, m'aimes-tu ? Suis-moi. Ce que je ferai avec Jean, ce sera son problème. Suis-moi. C'est merveilleux. Il va nous rendre possible l'impossible. Mais il faut déjà se casser un petit peu les dents, vous savez, hein, pour dire, mais toi, j'y arrive pas. Il y a des gens qu'on n'arrive pas à aimer. Mais si on le sait bien, il nous dit, donne-moi l'amour pour eux. Il va le faire. Il va le faire. Vous êtes mort. Donc la foi, vous savez, souvent il y a des gens qui disent « Je crois en Dieu. » Hein, c'est « Je crois en Dieu. » C'est pas compliqué de croire en Dieu. Non ? Hein, il y en a beaucoup qui disent « Je crois en Dieu, moi. » Et puis il y a une autre parole qui dit « Je crois à Dieu. » Quel est à votre avis celui qui croit en Dieu des deux ? Celui qui croit en Dieu, c'est lequel ? Eh bien, c'est celui qui croit Dieu. Si je crois à Dieu, je croirai en Dieu. Mais si je crois en Dieu et que je ne crois pas ce qu'il dit, je ne suis pas un croyant. Je ne crois pas en Dieu. On parle souvent, vous savez, de ces croyants non pratiquants. Hein, on le dit souvent dans les églises. Moi, je suis un croyant non pratiquant. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Jamais. Par contre, des pratiquants non croyants, alors là, hein, non, des pratiquants non croyants, on peut rencontrer. Hein. Peut-être moins, hein. Ah, les pratiquants non-croyants, je crois qu'il y en a dans toutes les églises. Vous voyez la différence ? C'est ça ? Un croyant non-pratiquant, ça n'existe pas. Un croyant, il pratique, pourtant il n'est pas croyant. Donc, prenez à la lettre ce que Dieu dit dans un verset. Ne prenez pas votre analyse, ni votre pensée sur le verset, mais ce qu'il a écrit. Vous êtes mort. Et Christ, votre vie. Point. Vous êtes mort. Si vous êtes mort, maintenant vous n'êtes plus obligé. Si vous m'avez reçu, si vous l'avez reçu dans votre cœur, on le sait ça. Puisque l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, vous voyez, il faut suivre le chemin de Nicodème, de Joseph, celui de Pierre aussi, mais lui il a pris du retard. Mais ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être un grand savant, un grand docteur, d'avoir un itinéraire hors du commun, comme Paul, Pierre ou Jean, non ? Le Seigneur vous a créé, il sait ce qu'il veut faire à vous, pour vous. Il a un plan de carrière pour vous, il est commun. Ce qui est commun, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Ça, c'est le test. Hein. Quand on ne l'a plus, c'est qu'on n'est plus en lui. C'est ça qu'il nous dit, demeurez en moi. C'est le secret de la vie nouvelle. Vous savez, c'est ça qui fait le vrai chrétien et le vrai témoignage. C'est le parfum qui va sortir de vous, sans que vous puissiez vous en rendre compte, puisque le parfum, il est pour les autres, hein. Et le parfum des autres, il est pour vous. C'est ça ? Le parfum. Et apporter la bonne odeur de Christ. Les gens, vous savez, doivent pouvoir voir sous votre lieu de travail, ou dans les familles encore, voir en qui vous puisez. Dans les familles, les couples, vous savez, c'est souvent les meilleurs tests. Hein. Quand on puise en nous, c'est très vite diagnostiqué. Mais dans votre lieu de travail aussi, vous apportez. Et Dieu va même plus loin. Que quand vous êtes en lui, vous êtes une source de bénédiction pour les autres. Même des non-croyants, ils sont bénis à cause d'eux. Il y a une bénédiction qui repose sur eux à cause de la présence du croyant. C'est-à-dire à quel point le choix de notre vie est merveilleux. En choisissant l'impossible pour que Dieu puisse le faire à travers nous. C'est vrai qu'il nous dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive sortiront. C'est cette vie nouvelle, vous savez qui nous sauve de tous, de nous-mêmes en premier, qui nous permet d'accomplir ce que lui veut. Mais il nous apprend aussi à renoncer, à faire à sa place. On voudrait bien, mais ça a voulu faire plaisir. Il y a des œuvres qu'on fait pour Dieu, et les œuvres de Dieu, celles qui restent, c'est les siennes, celles qu'il fait dans nos cœurs. Alors si, le secret, tout ça, pour nous chacun, est-ce que Dieu a du prix pour nous ? S'il a du prix pour nous, il ira jusqu'au bout dans nos vies. Il était jusqu'au bout pour Joseph, pour Nicodème. À l'heure, ils sont venus à la lumière, ils ont confessé leur foi, leur choix. Dieu les a bénis. C'est la seule chose qui importe. Même Dieu. Et vous savez qu'aimer Dieu, c'est une chose, hein, une seule. C'est quoi? C'est quoi? On a déjà vu une fois ce soir. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est quoi? C'est une seule chose. Elle nous libère de beaucoup d'autres obligations. Aimer Dieu, c'est une seule chose, c'est croire qu'il m'aime. C'est assez simple que ça. J'aime Dieu parce qu'il m'aime. Et comme il m'aime, je peux lui rendre mon amour à moi. Et mon amour à moi, c'est une confiance absolue que toutes les voies qu'il choisira pour moi, tous les chemins, sont des chemins d'amour parce qu'il m'aime. Il est honoré par ma confiance. Il n'est pas honoré par ma consécration, mais par la confiance enfantine de mon cœur. On va pouvoir prier ensemble. Seigneur, merci encore de cet exemple de Joseph et Nicodème qui étaient comme nous. Seigneur, des chrétiens qui peut-être avaient peur, mais qui un jour ou l'autre ont montré celui qui dans leur cœur avait le plus de prix. Seigneur, si tu as du prix pour nous, encore plus pour toi. Et nous, Seigneur, chacun nous attacher à toi, à toujours choisir de te faire confiance parce que tu nous aimes. Que cet amour ne changera pas et que te le rends et te faire confiance que nous pouvons te suivre en toutes choses, que tu ne te tromperas jamais. Seigneur, c'est la confiance d'un enfant avec ses parents, avec son père, qui croit que leur amour couvre toutes choses et que notre amour pour toi, ton amour pour nous est notre seul besoin. Aide-nous, Seigneur, à vivre de cet amour, à vivre de cette vie nouvelle que tu veux voir croître dans nos cœurs, développer dans nos cœurs pour la répandre en nous, à travers nous. Cette bonne odeur de Christ que tu nous appelles à donner, sans même que nous le sachions, mais qui nous comble autant qu'elle comblera toujours les autres. Et nous t'en remercions encore en ton nom. Amen.